CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des télégrammes, des SMS, des messages système et des messages instantanés. L'équipe aujourd'hui, Solarus et Dascritch. Notre interviewé est Laurent Chemla, lead de Calliopen. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Oui, non, public, puisqu'il y en a qui pourraient nous skyper, nous tweeter et tout. Pendant l'enregistrement, c'est con. Hein. Ouais, bon, allez, hop, c'est parti. Bonjour Solarus.
Bonjour.
Hop, bah oui, excuse-moi.
On m'entend pas, bonjour.
Voilà. Voilà, non, excuse-moi, c'est pas une idée de sabotage, c'est la première fois que tu es rédacteur en chef de cette émission. Et donc, il y avait eu un grand vent de panique que l'on a commencé. On se posait la question, est-ce qu'il vaut mieux sauver les femmes au coffre généreux, les petits chatons d'abord, ou vos données? Eh ben, à 51%, c'est chatons qu'il faut sauver, à 25%, vos données, et à 24%, les dames. Je pense que l'émission la semaine prochaine, qui sera consacrée à la place des femmes dans la high-tech, va être très houleuse. C'est notre invité qui a justement fait campagne d'ailleurs pour cette option. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laurent Chemla, donc que nous avons par visiophonie, par satellite. Je suis en train de perdre mon fil et donc d'oublier mes salutations. Et donc bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui désormais chatte non plus sur Caramel ou sur 3615 Bonjour Madame, mais sur Facebook, Messenger ou Google Hangout. Pareil que je passe pour un vieux crouton auprès de toi, car j'adore utiliser les emails. Or, il est dit que l'email a une tendance à disparaître. Non pas parce que, faute de quotas trop serrés, on les efface pour gagner de la place, mais en usage. Du moins, c'est ce que les études prospectives n'arrêtent de nous dire depuis plus de 15 ans. Oui, Mercure, le messager instantané est plus vif que le vif-argent, et bat à plate couture SMTP, non pas de vitesse, mais en gain de popularité. Or, la messagerie instantanée est aussi vieille que les emails, sauf qu'elle est loin d'être aussi standardisée. Entre les SMS, IRC, les outils de messagerie d'Apple, Facebook, Microsoft et Twitter, Google Hangout, Skype, cela fait beaucoup de monde et très peu de bibliothèques logicielles en commun. Il y a bien eu une époque, une tentative de standard, XMPP, alias Jabber, qui a failli être utilisé par tout le monde. Je dis bien failli, car Google et Facebook qui s'en servaient s'en sont détournés même pas 3 ans après l'avoir adopté. En clair, si ta copine t'attend sur IRC alors que tu es sur MSN, bah on n'en est pas sorti. Mais avant d'aller plus aussi loin, cherchons avec des raisonnements sociologiques, voire purement comportementaux, ce qui différencie effectivement la communication par email de la communication instantanée, celle qui ne supporte pas de rester à infuser. Alors j'en ai noté 5, qui dit 5, ben finalement ordonné, et qui dit ordonné dit...
Le top 5.
Eh oui, forcément, ça faisait longtemps.
5.
D'abord l'immédiateté, le direct. Thank you, Captain Obvious, vas-tu me dire avec cet air dépité. Mais avoue que les emails ne mettent pas forcément plus longtemps de nos jours pour arriver au destinataire que ta correspondance, eux, épistolaire. Bon, on a même des cas où les messages arrivent avec bien plus de retard. Cette année encore, j'ai reçu la SMS du Nouvel An avec plus de 5 jours de retard.
Numéro 4.
Ensuite, un point présentation avec le flux de discussion. Celui-ci est invariablement vertical, du haut vers le bas, et se lit comme un dialogue de théâtre de boulevard pour les discussions les plus orageuses, ou comme une notice juridique inutile pour les discussions avec les services après-vente. Ces divergences de conversation mises au même niveau que les trollers, ben, cela permet à chacun d'être d'équerre à la timeline verticale. Oui, forcément, puisque verticale, et puis ensuite tu t'exprimes horizontalement, enfin bon, voilà, du moins jusqu'à se faire bannir de la conversation.
Numéro 3.
La gestion de groupe, pour satisfaire à la fois ton instinct grégaire ou en fonction des situations. Que l'on soit dans un salon, sur la cuisine ou dans un canal dédié aux applications métiers, on a donc la possibilité de faire un petit coin d'appoint et d'en marquer la couleur d'entrée. Ici, on cause d'abord JavaScript en ECMA 6, amateur de jQuery, passe ton chemin. Ou encore, équipe bleue frappe du rouge, ben enseignant. La messagerie instantanée a la finesse des communications CB des routiers, tout en ayant à la fois l'utilité du collaboratif d'entreprise que le fun du vocabulaire des FPS.
Numéro 2.
L'absence d'archives, car après tout, dans la discussion instantanée, ce n'est pas comme dans les emails où la signature rappelle la responsabilité du service juridique et de ne pas imprimer inutilement ce message. Non, sur IRC, on oublie pertinemment la notion d'archive et donc les insultes partent très vite. Enfin, je suppose.
Numéro 1.
La principale utilité pour certains de la messagerie instantanée est de connaître le statut de son correspondant. Parce que oui, avoir ce goût du gay façon stalker de ses subordonnés est comme une seconde nature chez certains chefs Fayon. Dès que son icône à côté de son nickname indique une disponibilité supposée à 6h30 du matin, heure où son smartphone le réveille et où donc Skype note une interaction, passant immédiatement son statut en ligne, quel plaisir de commencer sa journée par un « Bonjour Gérard, dispo immédiatement pour un point sur le dossier Tartampion ?» Classement totalement subjectif écrit à 3h du matin en ayant mis mon statut Skype en hors ligne. Mais reprenons l'arrivée chez tout un chacun du chat et je ne parle pas que du félin, loin de là. L'arrivée du messager instantané pour le grand public se perd entre les BBS aux États-Unis et les salons feutrés du 3615 ULA pour ses cochons de français. Le service de messagerie express mais courte qui se monta le plus utile et le plus répandu est à ce jour... Solarus, ton téléphone.
C'est le tien, je crois.
Bon, je reprends. Le service de messagerie express, mais courte, qui se montra le plus utile et plus répandu à ce jour, est le SMS. Nokia sorti en 1994, le premier téléphone portable capable d'envoyer un message court. Mais de par la capacité mémoire très restreinte des cartes SIM à l'époque, il est impossible de garder plus d'une vingtaine de messages dans son téléphone. En 2007, Apple rénova le SMS en popularisant une présentation par interlocuteur au lieu d'une présentation purement chronologique, c'est-à-dire tous les interlocuteurs mêlés, des messages entrants et des messages sortants. Comme si le SMS en fait était une version sans fil de MSN ou des messages textes de Skype. Tiens, comme par hasard. La messagerie instantanée se caractérise par un envoi et une réception instantanée, mais aussi par une écriture très courte. Il faut reconnaître qu'elle a ce petit quelque chose de fun jusqu'aux abréviations. Les formules de politesse sont elles-mêmes esquissées voire absentes, là où le formalisme des SMS professionnels s'accompagne de 40 lignes de mentions légales qui n'engagent en rien que la personne qui le lit et les croit. Or, en entreprise, la messagerie instantanée est aussi ravageuse qu'un coup de téléphone. Que tu sois disponible ou que tu ne le sois pas, invariablement, tu répondras tout à fait cessante. Il y a donc souvent l'oubli de l'interlocuteur n'est pas forcément disponible pour te répondre. En fond du futur immédiat, si des fois je ne te réponds pas dans l'immédiat, c'est que des fois je suis AFK, away from keyboard, occupé, loin de mon clavier. Oui, cela m'arrive à moi aussi. Et je ne le fais pas forcément par malice.
Terriblement efficace. La, li, la, li, la, li, la, li, la. En abrégé, c'est la classe. La, li, la, li, la, li, la, li, la. Caché derrière ton pseudo, quelques phrases ou quelques mots. Lance ton message dans l'espace. Terriblement efficace. Tu veux tuer, tu as vertu. Pousse. Sur ton clavier, tu tapes et tu oses. Je chat, tu chat. Okay, salvez.
Tessa Martin, c'était un single sorti en 2003 et on ne sait pas ce qui s'est passé à travers la tête du chef produit de chez M6 Interaction quand ils ont sorti ce morceau. Parce que faire chanter une gamine de 13 ans le manuel parfait du prédateur sexuel sur internet, c'était quand même... Ça a été un énorme malaise. Et à l'époque, entre autres crimes contre l'humanité, je bossais dans une chaîne musicale et une chaîne pornographique. Je peux vous dire que on était très très mal. Et donc, voilà, depuis, complètement oublié.
Aujourd'hui, notre invité, c'est Laurent Chemla, développeur et initiateur du projet Calliopen. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Tu m'entends bien ?
Alors, par moment, je ne vous entends plus du tout. Là, en ce moment, je vous entends, ça tombe bien.
D'accord, très bien. On va démarrer l'interview. Donc, tu es à l'origine du projet Calliopen. Un projet donc de si je j'en
voilà,
crois
là,
le site de
ah d'accord.
Allô.
Ouais, on va arrêter l'enregistrement là. Laurent, je vais essayer de te rappeler par
du alternatif, des fois ça marche et des fois ça marche pas.
Je vous entends, oui, mais quand je parle vous m'entendez pas.
Si, ça y est,
je fais l'interview complète, on l'enregistre, on terminera l'émission après.
On aurait pu faire cette interview uniquement par SMS ou par message texte, mais comment dire. Déjà que notre programme est très expérimental, je crois que là, vous nous auriez déjà fui, ce qui n'est pas du tout l'idée. Si effectivement les systèmes de messagerie, qu'ils soient instantanés ou courriels, sont aussi variés que leurs protocoles, il existe le projet fou de tout grouper de grouper toute communication électronique d'un individu dans un dossier unique. Pour parler de ce projet open source Calliopen, nous interviewons par visophonie Laurent Chemla, cofondateur de Gandhi, membre du comité stratégique de la Quadrature du Net, voleur qui a fait sa confession... et pâtissier dans son garage réputé.
CPU, carré et petit utile.
Donc, Laurent Chemla, bonjour. Vous êtes développeur et initiateur du projet Calliopen.
Ouais.
Donc, c'est un projet donc, de décentralisation et de sécurisation des messageries. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment la naissance et le besoin initial au début de ce projet ?
C'est long, c'est très compliqué. Au départ, tout au début, c'est juste au moment des révélations d'Edward Snowden, il se trouve que Jérémy Zimmerman de la Quadrature du Net est en vacances chez moi. Et comme il savait que j'avais un très vieux projet dans mes bagages de messagerie, pas spécialement sécurisée, mais concurrente de Google Mail, il m'a dit « il faudrait que tu relances ce truc-là en faisant du logiciel libre et en te débrouillant pour en faire quelque chose qui permettra d'échapper aux grands silos comme Google et comme tous ceux qui participent à Prism, puisqu'à l'époque on parle de Prism. Et à partir de là, s'est engagée une longue réflexion qui a duré pas loin d'un an, avec des designers, surtout un designer, pour essayer d'imaginer ce que serait un système de messagerie, pas spécialement du mail, mais un système de messagerie, qui pourrait répondre à cette problématique de comment faire pour éviter la surveillance généralisée sur les correspondances privées. Et donc, la réponse est nécessairement plus compliquée que dire on va faire une messagerie sécurisée, parce que juste faire du mail sécurisé, ça marche, c'est efficace, c'est utile. Il y en a comme ProtonMail qui le font très bien, par exemple. Mais ça concerne trop peu de gens. Ça ne concerne que des gens qui sont très sensibilisés, suffisamment sensibilisés par la question pour changer d'adresse email, ce qui est déjà lourd, changer d'habitude, payer, c'est quelque chose qui ne peut concerner qu'une très petite minorité de la population. Or, la problématique de la surveillance généralisée, c'est qu'elle concerne toute la population. Et ça n'est pas parce que les personnes les plus sensibilisées vont se protéger que le reste de la population le sera d'une part et qu'elles-mêmes le seront d'autre part parce qu'elles échangent nécessairement avec le reste de la population qui, elle, n'est pas sensibilisée et qui reste dans les grands silos. Donc répondre à ce problème-là n'est pas aussi simple que de dire on va créer une messagerie sécurisée. Ça doit passer par une réflexion plus poussée sur ce que sera l'avenir de la messagerie, comment faire en sorte de créer un outil qui va concerner le plus grand nombre cette fois-ci, et qui fera en sorte que le plus grand nombre aura envie de l'utiliser, pas parce que c'est plus sécurisé, mais parce que ça lui apporte quelque chose de nouveau. Et ensuite, comment faire en sorte que ce quelque chose de nouveau-là amène les gens vers une meilleure conscience de leur niveau de confidentialité, vers une meilleure une plus grande volonté de se sécuriser par la compréhension, par l'appréhension de ce niveau de confidentialité. Et voilà, donc ça nécessite non seulement de trouver des outils, d'inventer des outils nouveaux, mais aussi d'inventer une expérience utilisateur qui fera que l'utilisateur, justement, sera poussé à faire des efforts qu'aujourd'hui il n'a pas envie de faire. Et ensuite, il faut fabriquer tout ça, et ça, ça prend du temps, surtout parce que c'est pas évident de trouver dans le monde du logiciel libre des gens assez motivés pour comprendre la problématique et participer au développement. Donc voilà.
D'accord. Donc, l'idée, c'est d'adresser le grand public. Comment est-ce qu'on adresse le grand public ? En faisant des outils simples, en les poussant à s'éduquer pour se protéger ou en les protégeant malgré eux ?
Non, mais aucune de ces trois solutions ne permettra d'atteindre assez de monde. La seule façon, en tout cas, ma vision du truc, c'est que la seule façon d'attirer le grand public, c'est de lui proposer un truc dont il aura envie. C'est tout. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à motiver les gens. C'est pas en leur faisant peur, c'est pas en leur expliquant. Tout ça, on l'a déjà fait des centaines et des milliers de fois. Ça marche uniquement pour une très petite partie de la population. Si on veut vraiment toucher le plus grand nombre, il faut lui proposer un truc qu'il aura envie d'utiliser. Donc là, l'idée qu'on a eue, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, c'est la seule qu'on ait trouvée qui puisse permettre de faire ça, c'est de dire, aujourd'hui, votre communication, votre correspondance privée est complètement explosée entre le mail, évidemment, mais les SMS, les textos, comme tu en parlais tout à l'heure, les messages privés sur les réseaux sociaux, pour les plus tech d'entre nous, les messages privés sur IRC, y compris tout ce Et, ou même dans des forums, quand tu participes à un forum quelconque ou que tu es sur LinkedIn, tu te prends des messages privés. Quand tu es sur un forum, tu te prends des messages privés. Ta correspondance privée aujourd'hui, elle est explosée dans une quantité d'endroits qui t'obligent à te connecter sur tout un tas de trucs. En plus, on te prévient par mail, tiens, t'as un nouveau message sur tel truc. Enfin, ça devient n'importe quoi. L'idée qu'on a eue, c'est de dire, créons un outil qui permette d'ajouter tous ces comptes sur lesquels on reçoit de la correspondance privée et qui regroupe les messages, non plus par thème ou par technologie utilisée pour les envoyer, mais participant à la correspondance, participant à la discussion.
D'accord, donc l'idée, c'est d'identifier en fait plus l'interlocuteur et le sujet que le média en lui-même, quoi.
Même pas le sujet, en réalité. Pour une raison à la fois technique, qui est qu'il y a tout un tas de protocoles qu'on entend intégrer qui n'ont pas de sujet. Un message privé Twitter, il n'a pas de sujet. Un SMS, il n'a pas de sujet. Cette notion disparaît dans la plupart des systèmes de correspondance privée. Il n'existe quasiment que dans le mail. Et d'autre part, on s'est aussi aperçu qu'au quotidien, quand on a une communication, un dialogue suivi avec quelqu'un, même par mail, c'est très rare que le contenu des messages continue à correspondre au sujet au-delà de deux ou trois. Du coup, dans notre réflexion longue qui a duré un an avec un designer, on a fini par se dire, laissons tomber cette notion de sujet. En réalité, notre sentiment, notre feeling, c'est que ça n'a pas d'importance réelle dans la correspondance privée. Donc ça devrait disparaître en pratique, au quotidien, en vrai, IRL, j'allais dire. En tout cas, ASK, comme vous dites plutôt les jeunes. quand on parle avec quelqu'un, que ce soit par téléphone ou quand on se voit ou quand on fait une teuf ou machin, on se rappelle de la conversation, elle dure, elle continue par des moyens, mais ce qui spécifie cette conversation-là, c'est la personne avec qui on parle. Le sujet, il est variable selon le temps, selon l'humeur, selon plein de choses. Ce qui définit une conversation, c'est quand même les participants à cette conversation. Donc, c'est à partir de ça qu'on va définir une conversation dans Calliopen. Ce sont les participants à la conversation.
D'accord. Tu le disais, donc Calliopen, ça va agréger plusieurs médias, donc les mails, l'IRC, le chat Facebook, Twitter. Comment on peut agréger tout ça et le sécuriser ? Est-ce qu'on travaille plutôt sur la sécurisation avec le serveur ou la sécurisation de bout en bout, d'interlocuteur à interlocuteur ?
Alors ça, le point principal dans Calliopen, c'est qu'on affiche en permanence ce qu'on appelle des niveaux de confidentialité. Ça n'est pas blanc ou noir. Un niveau, c'est de 0 à 100, par exemple, une échelle. Quand tu vas vouloir écrire à quelqu'un à partir de ton Calliopen, tu auras ajouté des comptes pour identifier ton interlocuteur, donc son compte Facebook, son compte Twitter, son email, son Jabber, j'en sais rien. Calliope, par défaut, va utiliser le protocole le plus sécurisé et va t'afficher le niveau de confidentialité de cet échange et te proposer des moyens de l'améliorer. Si tu utilises ton email, par exemple, son email pour lui écrire, et qu'il se trouve que Calliope pense avoir trouvé une clé publique qui correspond à cet email, il va te proposer de l'utiliser pour chiffrer. Si tu utilises Jabber via un canal sécurisé, il va plutôt utiliser Jabber pour lui envoyer un message, et ainsi de suite. Et à la fois, il va essayer d'augmenter en permanence ton niveau de confidentialité. En même temps, il va te proposer des solutions pour l'améliorer, y compris en disant à ton interlocuteur, voilà ce que tu devrais faire toi pour améliorer notre niveau de confidentialité. Parce que là, j'ai envie de te dire un truc, mais que moi, mon Calliope m'affiche que tout le monde pourra le lire, donc je peux pas te le dire tant que tu n'auras pas fait d'effort. Donc voilà, on espère aussi faire boule de neige et convaincre les gens, justement, en affichant ça.
Alors, donc l'idée, c'est aussi peut-être de promouvoir les systèmes les plus sécurisés ou de montrer du doigt les mauvais élèves.
On va pas montrer, on va convaincre. Je pense que ce simple affichage va motiver les gens. Simplement, le simple fait d'avoir une note sur ton compte Calliope qui te dit, voilà, ton niveau global de confidentialité à toi, utilisateur, il est de 10 sur 100. Mais tu peux l'améliorer en te créant une clé publique, en définissant mieux ton terminal, en prenant l'habitude de te déconnecter quand tu as fini, des choses très, très simples. Hein. Ça va pousser l'utilisateur à le faire simplement parce qu'il est noté. C'est comme un jeu, si tu veux, ce qu'on appelle de la ludification de nos jours. Hein. C'est comment faire en sorte d'améliorer ton niveau. Voilà, on va te proposer des pistes. Comment faire en sorte de l'améliorer encore au-delà de ces pistes? Ben, il va falloir que tu convainques tes interlocuteurs de faire comme toi, parce que tu vas pouvoir leur expliquer, on te donne un argumentaire, que toi, tu n'as plus envie d'échanger avec eux des choses trop confidentielles, parce que tu vois, comme à l'époque où on recevait des lettres scellées, tu vois que personne ne l'a ouvert, ou tu vois que quelqu'un a pu l'ouvrir. Donc, tu n'as pas envie de dire les mêmes choses en fonction des différents niveaux de confidentialité. Et tu vas essayer de convaincre les interlocuteurs de eux aussi de s'améliorer. Donc, c'est un processus qu'on veut engager, qui est long, qui est compliqué, parce que pendant des années, le processus inverse a eu lieu. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait croire aux gens que leur vie privée n'avait pas d'importance, que de toute façon, puisqu'ils affichaient plein de choses sur Internet, ils pouvaient aussi bien afficher leur correspondance. Et faire le mouvement inverse, ça va prendre du temps, c'est un processus. Et Calliope va essayer d'accompagner ce processus en y intégrant le plus grand nombre. Voilà.
Effectivement, on entend beaucoup de critiques à propos des systèmes de communication comme Jabber, comme XMPP, qui sont un peu marginaux. On dit il n'y a pas la masse critique, mes amis ne sont pas dessus. Là, l'idée, c'est de tout regrouper pour vaincre un peu ce problème de masse critique et amener ensuite progressivement des gens vers des choses plus sécurisées.
Oui, si tu veux, mais les pistes, on les verra au fur et à mesure. J'allais dire, Calliope est en train d'être développé sur la base d'un système de plugins. Donc, on pourra toujours ajouter des plugins pour le nouveau protocole à la mode, la nouvelle application sur smartphone que les gens utilisent pour les rajouter au fur et à mesure. Et à chaque fois, proposer le système le plus sûr pour écrire à quelqu'un en fonction des différents comptes qu'on aura identifiés pour ce contact. Mais évidemment, si aucun compte n'est sécurisé, on ne pourra pas lui écrire des messages confidentiels. Du coup, on affichera sur le message qu'on lui envoie qu'il a un niveau de confidentialité très bas. Ça n'est pas non plus grave de ne pas pouvoir écrire à quelqu'un de façon confidentielle du moment qu'on sait. Si on fait rentrer dans la tête des gens que cette personne-là, on peut pas lui écrire de façon confidentielle, mais c'est pas grave, on peut lui écrire quand même. Simplement, on lui dit pas de truc confidentiel, c'est déjà un truc énorme aujourd'hui. Ensuite, si on atteint une masse critique suffisante, si de plus en plus d'utilisateurs se mettent à prendre conscience de ça, et ont envie de s'améliorer, et ont envie de faire les quelques efforts nécessaires pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs correspondants, à ce moment-là, on commencera à renchérir le prix de la surveillance de masse suffisamment, peut-être un jour, ça sera encore une fois pas du jour au lendemain, peut-être un jour pour que les États et les grandes entreprises se disent ça vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup, ça coûte trop cher maintenant de surveiller la totalité des gens. Donc on va trouver d'autres modèles économiques ou revenir à de la surveillance plus ciblée des méchants terroristes ou des méchants espions chinois, et arrêter d'imaginer qu'en surveillant la totalité de la population parce que c'est facile et pas cher, on pourra choper les méchants.
Il faut cacher l'aiguille dans une botte de foin, mais la botte de foin n'est pas assez grosse.
Voilà, aujourd'hui, elle est trop petite. C'est clair que, même si on... J'ai pas les derniers chiffres, mais ProtonMail, qui est, je crois, le plus gros système aujourd'hui qui permet un peu de confidentialité, c'est de l'ordre de centaines de milliers d'utilisateurs, voire de millions d'utilisateurs. En face de ça, on a, pour le seul Google Mail, 1 milliard de comptes actifs. Donc à partir du moment où toi tu te sens sécurisé parce que tu utilises ton 1 millionième de compte ProtonMail, quand tu dois échanger avec des vrais gens au quotidien, les vrais gens ils vont être chez Google Mail. Tu vas te retrouver à 1 pour 1000, une chance sur 1000 d'extraire quelqu'un d'aussi sécurisé que toi. Donc en pratique, tout ce que tu vas dire publiquement restera public et restera interceptable. En tout cas, pour 999 pour 1000 de tes échanges. Ce qui pratiquement permet de tout savoir de toi quand même. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui. On voit bien que la masse n'est pas là, même pour le plus gros des intervenants actuels. C'est pas possible de rester dans ce modèle-là. Ça ne sert à rien si l'objectif, encore une fois, est de contrer la surveillance de masse. Si l'objectif, c'est de garantir un certain niveau de confidentialité entre quelques personnes très sensibilisées, c'est utile et fonctionnel. Mais c'est pas l'objectif de Calliope. Cet objectif-là, il est rempli par des services comme ProtonMail, très bien d'ailleurs, j'ai absolument rien contre eux. Simplement, c'est pas notre objectif. Et voilà, il faut bien le comprendre. Il faut comprendre que l'objectif de Calliope, ça n'est pas de sécuriser la correspondance privée de quelques-uns, c'est d'augmenter la masse critique de gens qui utilisent des systèmes sécurisés pour rendre trop cher la surveillance de masse.
On parlait de Gmail, justement, ils ont récemment sorti une option où ils affichent une alerte quand le serveur en face n'est pas sécurisé. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que de toute façon le fait que les gens restent chez Gmail, c'est un problème en soi?
Les deux. Ça va dans le bon sens. Non mais évidemment, ça va dans le bon sens. D'abord, moi ça m'a fait très plaisir parce que ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé Calliope. Et que l'évolution en 2 ans et demi de la plupart des silos et de la correspondance en général va dans notre sens. Des idées qu'on a eues il y a 2 ans et demi sont en train d'être mises en place ailleurs. Donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on s'est pas trompé il y a 2 ans et demi. C'est déjà pas mal, quoi. Ensuite, oui, donc ça va évidemment dans le bon sens. C'est pas suffisant parce qu'encore une fois, c'est blanc et noir. On peut pas, la confidentialité, c'est pas blanc ou noir. C'est pas aussi simple que ça. On peut pas dire c'est sûr ou c'est pas sûr simplement parce que ton transport est sécurisé. Si le contenu ne l'est pas, si Google, justement, y a toujours accès, et c'est le cas, à partir de là, la NSA y a aussi accès, depuis Prism, on le sait, donc ça ne sert pas à grand-chose en termes de confidentialité. Ça sert simplement à ne pas être intercepté par un tiers que Google. Mais comme Google lui-même intercepte et qu'il fournit les données interceptées au gouvernement américain, l'intérêt en est quand même très limité. On ne peut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens, parce que ça réhabitue les gens à faire attention au niveau de confidentialité de ce qu'ils écrivent. Donc c'est déjà pas complètement inutile, mais le niveau d'utilité est encore très bas.
D'accord. Dernière question pour finir cette interview. Le projet Calliope, il en est où et quels sont ses besoins pour le futur? Est-ce qu'il y a besoin de moyens financiers, de développeurs, de bénévoles, de contributeurs divers? Qu'est-ce qui pourrait faire avancer le projet?
Il y a une bonne nouvelle cette semaine, c'est qu'on a officiellement, depuis le départ du projet, Gandhi me soutient. Gandhi, c'est mon ancienne boîte, elle a été vendue il y a 10 années. Mais depuis le départ, la boîte me soutient et nous a toujours aidés. Là, depuis maintenant moins d'une semaine, officiellement, Gandhi a embauché un développeur qui va travailler à plein temps sur Calliope. Pour le front, c'est le point principal et le plus difficile. Voilà. Donc, on a cette bonne nouvelle. Maintenant, ce qui peut aider à aller plus vite, oui, évidemment, on va chercher des fonds. Là, on a déposé un dossier auprès de la BPI pour aller encore plus loin dans pouvoir embaucher encore plus de monde. Le vrai problème du logiciel libre aujourd'hui, c'est que pour un projet aussi ambitieux que celui-là, en tout cas, il faut vraiment une masse de travail considérable et que c'est compliqué de trouver des gens du niveau nécessaire pour fabriquer des choses aussi complexes, quoi. C'est compliqué. compliqué parce que les gens qui ont ce niveau-là, ils ont déjà leur propre projet en général. Ils ont déjà leurs propres idées, leurs propres envies. Ils n'ont pas spécialement envie de venir intervenir sur un projet qui n'est pas le leur. Donc, les convaincre, c'est pas facile. Et au moins, pour commencer, pour arriver à quelque chose, à montrer un outil qui sera utilisable, même s'il est encore très limité, par exemple, qu'il ne gère que le courrier électronique et pas encore les autres protocoles, ou qu'il n'affiche pas encore tout ce qu'il devra afficher à terme, ou qu'il n'a pas encore de gestion d'agenda ou d'autres trucs comme ça, pour en arriver à un produit utilisable et qui va attirer enfin une petite communauté de développeurs autour, il faudra bien sûr, maintenant on en est convaincu, salarier des gens, donc on cherche de l'argent, mais on en est qu'au début de ça, je suis pas très inquiet sur la recherche d'argent, je pense que dès qu'on aura une petite alpha, on pourra commencer à réfléchir, soit créer une boîte et trouver des financiers derrière qui la financeront, soit faire du crowdfunding, soit faire les deux. Un des objectifs dans CaliOpen, c'est d'avoir une association qui soutiendra le futur, c'est-à-dire qui permettra de garder le logiciel up-to-date en permanence, de faire des évolutions, de faire des mises à jour de sécurité, ainsi de suite. Cette association, elle peut parfaitement être financée par du crowdfunding, pendant qu'en parallèle, une entreprise de type start-up ou autre se met en place pour créer les premières versions du logiciel qui ensuite seront gérées par l'association. Donc j'envisage une espèce de modèle comme ça, biface si on veut, avec d'un côté des fonds privés, de l'autre des fonds du grand public cette fois-ci, de la foule, pour amener le projet jusqu'au point où il vivra sa propre vie, il n'aura plus besoin de mon aide. Voilà.
D'accord. Donc, écoute, on mettra tous les liens aux auditeurs qui sont intéressés. Laurent Chamla, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette interview qui est passée par plusieurs canaux de communication non sécurisés.
Ou plus ou moins.
Plus ou moins.
Ou presque. Bon, je vais allumer un super signal. Game of hide and seek now. La, 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 la. If you have X-ray eyes, please promise not to peek now. La, 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 la. Well, first we count to 10, and then we'll have some fun. La, 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 la. Or will you fly away before we count to 1?
You know you got a lot to do. Ooh. Let's go.
The Powerpuff Girl, plus connue en France sous le nom des Super Nana. Voilà, et c'est extrait d'un album qu'ils ont sorti en 98 avec une bande-son absolument impeccable de musique plutôt alternative de groupes principalement américains. Là, on vient d'entendre The Apples in Stereo, Signal in the Sky, Let's Go. Et là, effectivement, c'est un message court à la Batman, c'est-à-dire un spot de lumière, une découpe, et hop, voilà, c'est parti. Mais justement, comment on peut faire une communication, mais de manière un petit peu plus privée?
Ah, parce que Internet existe pour communiquer, on vous le répète à longueur de journée, mais concrètement, quels sont les outils qui permettent de communiquer sur Internet? Et parmi tout cela, lesquels utilisez-vous au quotidien? Si on fait l'historique, le premier moyen de communication utilisé en masse fut l'email. Oui, oui, l'email que vous utilisez encore aujourd'hui. Développé et publié par John Postel, ça ne s'invente pas. Le protocole SMTP permet d'envoyer et de recevoir des courriers électroniques aux personnes avec qui on souhaite converser. Ainsi, pour envoyer un email, il vous faut l'adresse du destinataire, qui sera composée d'un identifiant suivi d'un arrobase et du serveur hébergeant la boîte mail de la personne.
Avant, c'était beaucoup moins simple au début des années 80. Ouais. Il fallait connaître l'adresse pour y aller. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait connaître le cheminement et expliquer au facteur comment acheminer le courrier. On en est revenu. Hein.
Voilà. Aujourd'hui, on utilise donc cette notation, qui est la notation quelqu'un@quelquepart.com que vous connaissez tous. Par exemple, pour joindre Gérard qui utilise Gmail, vous taperez gérard@gmail.com.
Pas d'adresse privée, s'il te plaît.
Désolé. Le mail, à l'origine, n'était fourni avec aucun chiffrement. Les messages voyageaient en clair sur le réseau. On ajoute ensuite les mécanismes StartTLS et TLS pour chiffrer les messages entre les serveurs.
C'est, attention, hein. C'est-à-dire par exemple, si vous écrivez depuis voilà à une adresse Orange, en fait, ce qui est chiffré, c'est la communication entre les deux serveurs.
Entre les serveurs, on est d'accord.
Voilà. Mmh. C'est, on ne parle pas forcément de toi quand tu envoies un email.
Oui, oui.
C'est de ça dont on parlait durant l'interview. Ouais. Voilà.
Malheureusement, encore aujourd'hui, en 2016, beaucoup de fournisseurs de mails n'ont pas activé ce chiffrement. Des acteurs comme Gmail et bientôt Calliope, dont on a parlé, avertissent leurs utilisateurs quand un mail leur est parvenu en clair, afin que cette absence de chiffrement soit plus visible et puisse être mieux combattue et peut-être un jour disparaître.
C'est la technique du « je te pointe avec le doigt ». Bah, t'es nul.
Avec toutes les nuances qu'on a évoquées avec notre invité, bien sûr.
De gris.
Votre choix en tant qu'utilisateur pourrait être alors de choisir un fournisseur de mail plus sécurisé, fournissant à minima un chiffrement entre les serveurs, voir si l'aventure vous tente, pourquoi pas vous auto-héberger et gérer vous-même votre serveur de mail. Plus tard, la sécurité de serveur à serveur fut complétée par du chiffrement de bout en bout, avec X509 ou GPG. Derrière ces noms techniques se cachent des clés de chiffrement dont seul l'utilisateur final a le contrôle. Ainsi, lui seul peut déchiffrer les messages qui lui sont adressés. Si le message était intercepté sur le chemin, ou si l'un des serveurs mail était compromis, seule une bouille informe de lettres serait lisible.
Ça revient en fait, avant, on envoyait dans une carte postale. Maintenant, et ben en fait, tout ce que voient les gens, c'est une enveloppe et ils ne peuvent pas l'ouvrir.
Voilà,
il y a l'adresse de destination. C'est
même
pas
si
complètement...
l'enveloppe, voilà. Tu vas avoir une soupe de lettres.
Non, tu peux pas l'ouvrir pour l'instant.
Ouais. Voilà. Ensuite, sur la base du mail, on a eu les newsgroup Usenet et les listes de diffusion. Pour diffuser sur un newsgroup, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire au groupe ou à la liste de diffusion et vous recevez les messages correspondants. Et en envoyant un mail à ce groupe, il sera retransmis à tous les inscrits. Ici, aucune sécurité ni confidentialité. Les messages s'envoient à tous les inscrits et bien souvent, ils sont archivés publiquement. Attention donc à ce que vous pourrez y dire. Un autre moyen de communication est apparu sur Internet est l'IRC, Internet Relay Chat. Les plus de 25 ans ont tous utilisé IRC sans le savoir. C'était entre autres le chat de Caramel. Sur IRC, vous pouvez vous connecter à un serveur, puis à des salons dont le nom était précédé d'un dièse. Le fameux hashtag qui sera repris plus tard par Twitter et par les réseaux sociaux en général. Vous pouvez aussi contacter un utilisateur en privé, ce qui permet enfin d'avoir des conversations en temps réel et temporaire qui disparaissent une fois les deux personnes déconnectées. De par sa simplicité, IRC a toujours été facile à sécuriser. La connexion est chiffrée jusqu'au serveur et peut être activée avec une simple option. Attention toutefois à ce que vous pourrez dire sur les canaux, car la plupart sont publics. Là aussi, faites attention à la portée de votre message. Ce que vous pouvez dire avec un cercle restreint, vous ne le diriez pas forcément dans la rue, par exemple. Et à partir de 2006-2007, on vit enfin l'essor des fameux réseaux sociaux. À la fois outils de communication et outils de publication, remplaçant à tort ou à raison les sites web et les blogs, ils s'imposèrent comme le moyen de communication majoritaire sur le web et sur Internet. Se basant justement sur le web et sur le protocole HTTP, la sécurité des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter est calquée sur ce même modèle, donc notamment HTTPS. Sécurité toute relative puisque rien n'empêche ces fournisseurs de services de piocher vos données directement dans leur serveur pour les revendre à des régies publicitaires, ce qui constitue d'ailleurs l'essentiel de leur modèle économique et de leurs revenus. Pire, ils sont régulièrement amenés à travailler avec les services de renseignement de la plupart des pays, qu'il s'agisse de respectables démocraties ou d'infâmes dictatures.
Alors, respectable démocratie, par exemple, la Chine et infâme dictature.
Chacun faire son choix en âme et conscience.
Non, mais c'est une république démocratique, la Chine.
Enfin, nous parlerons de XMPP. Là aussi, il est probable que vous utilisez XMPP au quotidien, puisque c'est le protocole utilisé par Facebook Messenger.
Bah on explique aussi l'autre nom d'XMPP. Jabber, chaque fois qu'on
mais
a fait.
Tu vas me laisser lire mes chroniques.
Chaque fois qu'on a fait la blague sur le chat du.
De la tu vas me laisser lire mes chroniques.
Non, sinon c'est pas drôle.
Normalement, les serveurs XMPP peuvent communiquer les uns avec les autres, ce qui forme le réseau Jabber. Mais Facebook ne joue pas le jeu en empêchant les utilisateurs de communiquer avec d'autres serveurs, les conservant ainsi captifs dans l'écosystème Facebook. Mais le chat par texte semble déjà dépassé par le chat photo, comme avec Instagram et Snapchat. Ici, la confidentialité n'a pas plus vraiment le droit de citer. Il faut se mettre en scène, se prendre en photo et faire des selfies. Seule la diffusion restreinte et le choix rigoureux des destinataires vous empêchera d'envoyer un snap sexy à tout votre public. Cette analyse doit nous amener à réfléchir sur plusieurs points. Devons-nous alerter nos correspondants e-mail sur le manque de sécurité de leur serveur ? Devons-nous utiliser des solutions de chiffrement de bout en bout telles que des GPG ou OTR ? Voulons-nous être prisonniers d'un écosystème qui revend nos données pour gagner de l'argent ? Ou voulons-nous défendre des modèles ouverts où la sécurité n'est pas laissée aux mains d'un seul acteur ? Je vous laisse trouver votre réponse sur toutes ces questions.
Et on envoie le message. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpockets.
pocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
C'était le grand jeu à une époque d'essayer de se souvenir par cœur des paroles. C'est une horreur. La version longue dure 25 minutes. The Grand Master Flash, The Message, morceau qui date de 82 et qui, c'était le lancement du mouvement hip-hop. Non.
T'étais poney.
Oh, celle-là, cette blague, elle était à cheval.
Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de la correspondance et des moyens de communication. Oh, oh, un peu de calme dans l'amphi, là. C'est quoi ce mot qui circule dans les rangs? Passez-le-moi. Voyons ce qui est écrit. Cindy, viens à 17h dans les cuisines, je te ferai la rondelle à la margarine. Signé Théo. Ah bah, bravo pour la rime, Théo, mais vous auriez pu chiffrer votre message, ça vous aurait évité de vous taper la honte devant toute la classe. La correspondance, donc, à l'origine orale puis écrite, a très tôt été chiffrée, notamment pour protéger des secrets militaires. Un déchiffrement le plus ancien et le plus connu est le chiffre de César. Malheureusement, il s'agissait d'un simple décalage, assez simple à casser en étudiant la fréquence des lettres en latin. Lorem ipsum, je sais plus la suite.
C'est quoi la blague, monsieur?
Vous êtes trop jeune. On a d'ailleurs déchiffré un message de César disant « Envahir la Russie, mais ça va pas la tête. Laissez donc plutôt Napoléon et Hitler s'y essayer et se casser les dents. » L'Antiquité passa, puis le Moyen-Âge. Inimaginable d'essayer de cacher un message à l'Église et à son Inquisition. Quel que soit le contenu, ça vous valait un aller simple pour la question et le bûcher.
Et c'était quoi la réponse?
Mais le siècle des Lumières amena un nouveau concept, la vie privée. La bourgeoisie droite-lhommiste avait un besoin de se protéger du roi et surtout de protéger sa fortune. Cela amena notamment le secret bancaire, utilisé encore aujourd'hui en Suisse, où vous pouvez obtenir un compte numéroté parfaitement anonyme. Cette période vit l'apparition d'inventions complètement mineures, comme la poste de Benjamin Franklin, le téléphone de Graham Bell ou la télévision. Mais heureusement, il y avait Internet. Entre-temps, la quête des puissants pour le secret des correspondances fut toujours renouvelée, à l'image de cet ancien président de la République qui acheta un téléphone au nom de Paul Bismuth pour téléphoner à ses avocats, alors même que les correspondances avec les avocats étaient protégées par la loi. Le XXIe siècle vit l'avènement des réseaux sociaux, où vous pouvez répandre votre vie privée autant que défendre vos opinions politiques. Ainsi, vous pouviez dénoncer les pesticides et les OGM entre deux échographies de votre futur enfant. Les jeunes postaient des selfies à tour de bras, nous permettant de savoir à chaque instant où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Même les prisonniers diffusaient des vidéos en live de leur cellule grâce à Periscope. La correspondance était devenue multimédia, et bientôt, la réalité virtuelle s'empara de tout ça. Tout le monde, connecté dans le même espace virtuel, pouvait se voir, se parler, bien que physiquement séparés par des milliers de kilomètres. La correspondance, plutôt la communication, était devenue permanente. Nous recevions en permanence des messages de nos amis, de nos proches, de nos followers, de nos supporters. Puis vint la conquête spatiale. Mars, Vénus et même jusqu'à Pluton, le réseau de communication s'étendait aux confins du système solaire, et avec lui, son emprise sur nos vies et notre quotidien. Le seul répit qui nous fut offert fut la pénurie d'IPv6 lors du déploiement du réseau sur Pluton. Mais depuis, nous vivons connectés en permanence à ce réseau. Bon, le cours est terminé. Les Martiens, votre devoir est attendu pour demain. Les Plutoniens, vous avez 3 jours de plus, compte tenu de la latence. Vous pouvez vous déconnecter de l'espace virtuel. Le cours est terminé. À la semaine prochaine.
C'est un peu ma petite Madeleine de Proust issue des archives de la radio Sweet Apple Pie, c'était dans l'album Everybody Wants to Be a Super Tiger, et le morceau s'appelait Words. Vous écoutez l'émission CPU, carré, petit, utile, oui, j'espère bien, et on approche de la fin, donc qui dit la fin dit forcément... Non, putain.
La météo
d'Internet.
La météo instantanée des messageries.
D'Albertine à Marcel.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Wesh, t'as pas vu l'heure ?
De Albert à un étranger.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. YOLO !
De Raymond à la petite Zazie.
Mais d'où qui putain dans ? Cesse immédiatement de t'exprimer en langage SMS, tout cela frise l'abstrus.
De Vladimir à sa copine.
Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, ont péché mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits bonds de long du palais pour venir, à 3 cogner contre les dents. Lolita. J'aime, tu viens demain ?
de Montesquieu à une personne. Ou une personne, c'est mal écrit.
C'est mal écrit, tu parles. Nous n'avons séjourné qu'un jour à Com. Pourquoi ? Pas Airbnb ? Ça marchera mieux quand vous lirez le texte, je vous l'assure.
De Louis Ferdinand à Destouches.
Ça a député comme ça. Oh mec, t'es roulou, comment comme ça ?
Une amie à Anne-Louise de Stel.
Rendez-vous resto demain pour teuf avec mon mec ? Je serais trop heureuse, ma chère cousine, si je pouvais contribuer à votre mariage avec monsieur de Mondeauville. Les liens du sang qui nous unissent me donnent le droit de vous servir, et je le réclame avec insistance. Sur Skype, maintenant.
À propos d'un fameux mot qui fut lâché sans le mâcher, heureusement.
Rends-toi, Cambronne ! La garde se meurt, mais ne se rend pas !
Entendu à Samos ou à Alexandrie.
Eureka ! Attention, elle est très, très tiède.
Dans le train Nevers-Hiroshima.
Qui es-tu ? Tu me tues ? Tu le fais du bien ?
Entre le Petit Liré et le Mont Palatin.
Veni, vidi, vici, at César, what the fuck ?
Quai Saint-Bernard, Paris.
In vino veritas. Déjà l'heure de l'apéro, Nicolas ?
D'un capitaine à un général.
Morocco, vaste programme !
Journal de 20h, le 5 août 850 avant Jésus-Christ.
De notre envoyé spécial qui prend racine à Ilium. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts faisant un passage, et de sang tout couvert échaudant le carnage. Songe au cri des vainqueurs, long songe au cri des mourants dans la flamme étouffée sous le fer expirant. À vous les studios. C'était CPU, le programme carré petit utile pour cette release en UDP. Black Salah, tu l'as ? Non ? D'accord, ok. Solarus, Chief Inbox Officer, Daskrit, Chief Thunder Officer, Marco Lani, Chief Archiver Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio FMR et ainsi elle a été enregistrée dans les conditions du direct, mais dans le désordre, c'est franchement vraiment pas de notre faute. Ça illustre bien les problèmes de la messagerie. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter, partager, c'est libre de droit, allez-y. Prochaine release, les femmes dans la high-tech. Eh ben, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Le sujet sera très vaste et passionnant. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons la réplique impromptue à Monique Blanquet. Monique qui doit être en train de se prendre la tête dans le visage en disant « Oh là là, ce pauvre garçon, il est peut-être réalisateur, mais il ferait mieux de prendre des cours de dramaturgie sur scène. » C'était les bonnes adresses, Monique. Hein. Non, parce que Solarus aussi en a besoin.
Non, je suis un excellent acteur. Plus convaincant ?
Oui, parce que là, tu fais un petit peu court Florent.